Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui au Silo, un magasin qui se trouve à la sortie de Die, ou du moins à l'entrée de Die quand on arrive dans la ville. Et le Silo, donc, qui est un collectif de vente locale et paysan. À côté de moi, il y a donc Frizou, bonjour.
Bonjour à tous.
Frizou, tu es là aussi en tant que membre et adhérente et active aussi au sein de ce collectif.
Oui, c'est ça, je fais partie des associés.
Et tu as une exploitation intitulée Le Jardin d'Artémis, où tu proposes divers produits, notamment des huiles essentielles.
Oui, un petit peu, mais beaucoup d'eau florale.
Ah, surtout d'eau florale. Ouais, ouais. Et puis en face de moi, donc, Émilie de Poney-Saint-Auban. Et donc, vous êtes, pareil que Frizou, donc active au sein du Silo, et aussi exploitante du cochon d'Iwa.
Oui, c'est ça. Effectivement, bonjour à tous. Oui, je fais aussi partie des associés du Silo.
Ici, c'est un collectif qui a fondé le Silo. Le Silo est ouvert ici donc depuis le juillet 2020, c'est ça? Un projet quand même qui était en latence depuis 2 ans.
À peu près, effectivement. Le temps de mettre en place et de construire tout le projet, trouver un lieu, trouver l'équipe en fait qui allait faire ça, effectivement, ça nous a pris quasiment 2 ans.
Ce collectif regroupe environ combien de producteurs?
Alors on est 13 associés, il y en a 2 qui sont en plus en transition depuis 2-3 mois, donc on est à 15 associés, en tout cas on a démarré avec 13 associés. Est-ce que je nomme tout le monde?
Ça sera l'occasion de parler de cette page internet, hein. Je suppose qu'il en existe une où tout le monde sera cité, non?
Oui, on a un démarrage de site internet, voilà, on ne sait pas trop où ça en est, on a une page.
Le Silo à Die.
Oui, voilà.
Effectivement.
Donc on est 13 associés, il y a des maraîchers, il y a des producteurs de viande, en cochon, en agneau, en poulet. Enfin non, dans les associés, on n'a pas le poulet d'ailleurs. On a aussi
du fromage,
de chèvre.
On a des céréales, de la moutarde, des pâtes.
De la farine.
Tout ça. On a des sorbets, les sorbets de Christelle.
Et puis les plantes et puis des produits transformés, issus du maraîchage ou pas. Des fruits qui arrivent de Cornillac quand ça gèle pas, donc ce sera pas pour cette année. Voilà.
En somme, tous les produits qui pourraient convenir pour une semaine d'alimentation, pour préparer des repas, et qui est aussi basé sur les productions de saison.
C'est ça, on est effectivement sur les productions de saison. Donc là, les gens qui passent régulièrement au Silo se sont bien aperçus que nous avons une petite traversée du désert.
Pour le mois de février et mars, hein, les maraîchers, ils ne travaillent pas trop à cette époque. Enfin si, ils travaillent, mais ils préparent la nouvelle saison qui arrive. Voilà. Et sinon, on parlait des associés, mais on n'a pas parlé aussi des 27 dépôts vendeurs qui font aussi partie du magasin et qui viennent vendre leurs produits en plus au magasin. Donc en tout, on est quand même une quarantaine de producteurs du Die.
Des produits essentiellement alimentaires, mais il y a aussi des produits, on pourrait dire, ménagers, biologiques.
Alors, on est essentiellement sur de l'alimentaire. On a dans les productions qu'on n'a pas citées tout à l'heure, dans les dépôts vendeurs, il y a aussi tout le volet clairette, jus, confiture, etc. Les tisanes, Et puis on a un petit, on a aussi Jérôme Dewell qui propose des extraits fermentés d'ortie, de consoude, des macérations d'ail. Donc ben, en ce moment c'est le printemps, et puis il va falloir aider ces petites plantes à supporter le gel, la sécheresse, etc. Et puis ben, c'est un bon moyen aussi pour aider. En ce moment il y a Sandra aussi qui propose ses plants. Alors elle propose des plants de salade, de mesclun, de... et puis des plants d'aromatiques, de...
même de tomates,
et de tomates, et ses propres semences aussi. Donc voilà, on essaye de...
Et après, sur le non-alimentaire, on a aussi bah, tout ce qui est cosmétique, on a des savons, on a aussi de la laine, et même des écharpes, des bonnets qui viennent de la laine des brebis de Christophe et Margot Aglandage.
Comment vous est venue cette idée donc de vous réunir tous ces associés et puis ces dépenses, ces dépôts-ventes pour constituer ce local qui est basé où précisément, parce que ça je ne l'ai pas cité.
Alors le silo, on est à l'entrée de Die, en face de la cave Jaillance, on va dire, et en face d'Intermarché, voilà, derrière le magasin Verisport. Et la genèse de tout ça, bah, au départ, c'était un petit groupe de producteurs qui avait envie de relocaliser sa production et de mettre aussi en valeur la vente en direct. Et en fait, au fur et à mesure, le groupe s'est agrandi pour qu'on puisse diversifier les productions et que chacun apporte des choses au magasin. Et voilà comment on s'est retrouvé à 13 au bout de 2 ans.
C'est une conséquence de ce que vous étiez aussi. Vous êtes forain hein, sur le marché de Die également. Est-ce que c'est consécutif à ça que vous avez cette clientèle aussi?
Mais, c'est-à-dire qu'on est tous installés depuis... certains depuis pas très longtemps et puis d'autres depuis plus longtemps. Donc on a tous nos clients et ben, on a mutualisé nos fichiers.
Ça fait partie du réseau social aussi du Diwa. On est beaucoup, on croise quand même beaucoup de monde et on connaît tous du monde, chacun les uns les autres. Et du coup, c'est ce qui apporte aussi la clientèle du silo. Sans compter que les gens cherchent aussi de plus en plus à avoir une alimentation locale, de qualité. Et le magasin, on est aussi tout en agriculture biologique ou en nature et progrès.
On est aussi dans un coin de Die où il n'y avait pas forcément cette offre-là. Et que du coup, on a aussi plein de gens qui sont dans le quartier derrière la zone. Voilà.
Ouais, on touche, tout, on touche un peu aussi toute la clientèle qui arrive du côté de Valence. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Vous avez démarré donc en juillet, en pleine période estivale. Est-ce que pour vous, c'est parti très rapidement par rapport à la clientèle de touristes estivaux, par exemple?
Ben, on a eu un peu de clientèle estivale, ce qui nous fait dire que quand même on est visible, parce qu'il y a encore plein de gens dans le Diwa qui ne nous ont pas trouvés ou vus, mais il y a des touristes qui nous ont trouvés. On n'est pas sur une démarche où on se dit alors quel genre de client on veut avoir, tatati tatata. On a ouvert et puis on voit bien ce qui se passe. Après
on voit bien qu'il y a quand même une clientèle assez fidèle. On a des clients qui reviennent vraiment toutes les semaines et de la part de qui on a des super retours sur le magasin et qui augmente aussi notre réseau de clients parce qu'ils en parlent à d'autres personnes. Voilà. Et beaucoup aussi des villages alentours, pas que des gens de Die. Voilà. Beaucoup des petits villages autour. Il y en a qui viennent de Saillant, il y en a qui viennent de Marignac, Chamaloc, Ponet, Barsac. Enfin voilà, ça peut être.
On a parlé donc de ces démarrages en juillet et puis au fur et à mesure, là par exemple janvier-février, c'est beaucoup plus calme dû à la saison de préparation hein, du maraîchage. Mais est-ce que vous arrivez quand même à maintenir une quantité suffisante pour contenter la clientèle tout au long de l'année?
Eh bien alors, c'est-à-dire que comme ça a été assez scabreux pour démarrer, parce qu'on voulait ouvrir au mois d'avril l'année dernière, donc évidemment, mi-mars, on était peut-être déjà un peu à la bourre pour ouvrir début avril, mais en tout cas, là, on a été obligé d'avoir un délai parce que y avait plus, on n'arrivait pas à avoir les chambres froides, les vitrines, etc. Donc,
Oui, par contre, depuis qu'on a ouvert, on peut dire que quand même le magasin il tourne vraiment bien et que même le fait qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de produits issus du maraîchage en hiver, malgré tout, il y a quand même une offre assez conséquente autrement au magasin. Il y a tout ce qui est viande, tout ce qui est fromage, même si ça a baissé un peu en hiver. Et après, il y a tout ce qui est aussi produits transformés. Il y a tout le rayon jus, alcool, enfin tout ça. Et ça, c'est des choses qui sont des productions étalées tout au long de l'année et qui sont là tout le temps. Donc, même s'il n'y a pas toujours des salades ou des tomates, en fait, il y a quand même une offre vraiment diverses et variées, et ça vaut le coup de passer.
En parlant de produits transformés, les tomates ne sont pas de saison l'hiver, mais est-ce que vous proposez justement des conserves
des
de tomates?
Des coulis de tomates, des super coulis de tomates, voilà.
Entre autres, il peut y avoir aussi en produits transformés, on a des soupes, on a des cornichons, il y a des courgettes.
Du pâté.
Il y a du pâté, non mais oui, on a beaucoup de conserves quand même.
Ça, ce sont des produits préparés qui sont fabriqués au sein de locaux particuliers ou de laboratoires, je suppose, celles d'entreprises. Mais par exemple, pour tout ce qui est charcuterie ou viande, ça se traite au niveau de l'abattoir de Die ou pas?
Alors, on a les producteurs sur la viande qui passent par l'abattoir de Die. Et après, pour l'instant, on est deux productrices associées, et donc en partie par l'abattoir et en partie chez Troupéou, qui est un atelier de transformation à côté de Bordeaux. Et y en a certains, pour moi en tout cas, l'idée c'est de faire un atelier de transformation à la maison. Voilà. Après non, je sais que sur les autres viandes, comme le GAEC de Montlahuc qui nous fournit la viande bovine, ils sont aussi chez Troupéou.
T'as le droit de faire du traitement de viande chez toi?
Ouais, si avec un labo. On n'appelle pas ça agréé, mais oui, effectivement, on peut faire un labo de viande en respectant toutes les normes d'hygiène. Voilà. Ouais. Tant que le labo est aux normes, on a une obligation de résultat et aussi du coût de moyens, forcément. Mais oui, on a le droit de faire de la transformation sur une exploitation.
Le boulanger a sa place aussi?
Et oui, le boulanger, il a sa place. C'est pour ça qu'on a un collectif de vente directe et pas un magasin de producteurs, parce qu'on associe aussi des artisans. Donc on a l'artisan boulanger, l'artisan brasseur et l'artisan limonadière, par exemple. Pour l'instant, on en est à ces trois artisans-là. Peut-être il en viendra d'autres par la suite.
On précise aussi que Fred, du coup, qui fait le pain, est aussi associé au magasin.
Ouais. Il est associé, puis il utilise les farines des producteurs de la vallée.
Il y a cette problématique du maraîchage, ça m'interroge, c'est qu'il y a énormément de personnes qui désirent s'installer en maraîchage sur le territoire, mais malgré tout, il semble qu'il y ait beaucoup de carences pour les services de distribution de ces productions. Comment ça se produit
Mais ça, c'est où ce sont, à mon avis, c'est soit les collectivités locales qui mettent en place des choses pour que ce soit plus facile, soit c'est aussi les maraîchers qui se posent la question de savoir où est-ce qu'ils écoulent leurs marchandises, parce qu'après on est tous différents et on n'a pas tous la vocation, il y a des gens qui ont besoin de faire de la production, d'être dans les champs, etc. Il y en a d'autres qui ont besoin de se retrouver aussi sur le marché, de discuter avec les clients. Il y en a d'autres qui, je sais pas moi, qui préfèrent faire qu'une petite partie de production de maraîchage et puis pas le reste, et puis qui se concentrent sur certains légumes et donc qui vont pouvoir approvisionner, je sais pas, un magasin, etc. Il y en a d'autres qui préfèrent la diversité. Donc c'est à chacun de voir un peu comment il a envie de fonctionner. Après, nous, c'est clair que... on n'est que 40 producteurs dans le silo et qu'il y en a plus que ça dans le Diois et que forcément, euh, on, on n'arrivera pas à absorber tout le monde, ça c'est sûr.
Le problème, il se retrouve aussi pour les plantes aromatiques, par exemple. Enfin, là, pour le coup, c'est pas un problème parce que du coup, toi, t'es associé au magasin et du coup, t'es prioritaire aussi parce que c'est toi qui es associé. Donc, tu fais aussi tout le boulot à côté, tu fais les permanences et tout. Mais en plantes aromatiques, si on voulait, on pourrait prendre la moitié des producteurs du Diwa, quoi. Et à un moment, en fait, on n'a pas assez de place, on ne peut pas pousser les murs. Et puis, il y a aussi que, malgré tout, on est quand même dans le Diwa et que. Il y a une histoire d'offres et de demandes on ne peut pas avoir une offre faramineuse et ne pas écouler les produits aussi, il faut se dire ça, quoi.
Oui.
Et bien alors après, je voudrais dire aussi que la façon dont on fonctionne, on est donc très associés, on a des réunions tous les mois.
Bientôt 15 d'ailleurs.
Bientôt 15, et du coup on a une façon de fonctionner, on est donc un collectif de 13, 13 en réunion, c'est pas simple tous les jours, et du coup on peut pas être, en tout cas on est au démarrage, donc il faut bien qu'on mette en place un fonctionnement qui soit serein pour tout le monde et puis qui atteigne son objectif, c'est-à-dire que nous on écoule nos productions. Je pense que on a aussi il faut qu'on s'entende bien les uns avec les autres.
Ouais, et comme on dit, plus on est de fous, plus on rit, mais quand on est 13, c'est déjà pas mal et on rit bien assez ensemble. Ouais. En fait, non, on peut pas être aussi beaucoup plus, parce que sinon, le collectif, il fonctionne plus. Au bout d'un moment, quand on est trop, ça part dans tous les sens. C'est déjà compliqué de canaliser des réunions à 13 personnes, donc si on était, je sais pas combien de producteurs en plus, ça serait pas faisable. Mais par contre, on peut quand même dire qu'on a une super force de collectif et qu'on a un groupe qui tourne vraiment bien. Et même si on a tous des exploitations différentes, des objectifs différents dans nos exploitations, on se retrouve quand même tous sur ce point de vente collectif. Et du coup, je sais pas, il y a une super énergie qui sort de ça quand même, quoi. Ah ouais. Il y a vraiment chacun apporte ses points de vue, ses façons de voir les choses et de travailler. Et on n'est pas toujours tous d'accord. Hein, et du coup, c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi. C'est que, plutôt que d'adhérer à quelque chose tout de suite et de se dire on passe à autre chose, on en discute, on se rend compte que finalement on a des écueils et qu'en fait il faut qu'on aille voir plus loin, on réfléchit à d'autres choses et en fait ça nous amène plus loin. Voilà, donc on se construit en fait.
Cette constitution permet aussi de pérenniser votre activité en quelque sorte.
Ah oui, il y a certaines exploitations qui vendent quasi la totalité de leur production sur le magasin, d'autres qui en vendent qu'une petite partie, d'autres qui espèrent pouvoir ne vendre plus qu'au magasin et arrêter d'autres types de commercialisation ailleurs. En fait, ça pourrait permettre à beaucoup de simplifier la vente, en fait, tout simplement.
Parce qu'en vente directe, on passe beaucoup de temps à vendre, en fait. Moi, pour mon exemple à moi, je pense que je suis un tiers dans la production, un tiers dans la transformation et un tiers dans la vente. Et par exemple, avec ces histoires de Covid et de plus de marché, et puis après un marché très réduit, et puis j'ai fini par plus aller sur le marché parce que j'ai pas des produits périssables. Et que du coup, je me retrouve à faire 3 permanences par mois au lieu de 8 marchés par mois sur 10. Je gagne quand même en temps de travail et puis en charger, décharger une voiture, c'est pas la même chose que d'arriver pour alimenter le magasin.
Et puis pas de mauvais temps, pas de vent, pas de pluie, pas de marché au mois de décembre quand il fait -10 et qu'on a les pieds gelés pendant 5 heures.
Pas de course poursuite.
Pas de livraison pendant des heures et des heures partout dans le Diwa. Enfin c'est quand même agréable. Et en plus, on a des collègues qui vendent aussi pour nous, quoi. Donc c'est chouette.
Vous parliez de 13 personnes associées, plus une quarantaine de producteurs qui déposent. Est-ce que vous avez peut-être... par la force des choses, nécessité à l'avenir aussi d'essayer de vous agrandir.
Avant de s'agrandir, Yves, on va essayer de déjà remplir ce magasin.
D'accord.
Il est déjà, enfin, parce que toi, tu l'as pas vu. Hein.
Non, j'évite. Non, moi, c'est pour éviter. C'est comme les œuvres d'art. J'évite de les regarder à fond. Okay. Ça me perturbe pour l'interview.
Okay. Ça marche.
Oh, c'est beau. C'est, ouais, comparé c'est, à une œuvre ouais. d'art, le oui. magasin, c'est oui. plutôt pas mal.
Non, mais non, c'est peut-être une question saugrenue.
Bah, ouais, c'est complètement saugrenu parce non. que nous, on n'est pas là pour, pour devenir un supermarché ou je sais pas quoi. On est là juste, on a mis un outil en place pour nous permettre à tous de d'écouler plus facilement nos productions et de gagner du temps sur la vente. Alors, on gagne du temps sur la vente, mais comme on a quand même plein de trucs à faire pour ce magasin, on est occupé par ailleurs, de toute façon. Non, pour l'instant, on ne va pas s'agrandir.
Le développement du silo à l'heure actuelle est dû donc à toutes ces personnes impliquées, mais est-ce que vous avez eu le soutien aussi d'organismes pour pouvoir élaborer ce projet ?
Eh bien oui. On a eu un accompagnement avec Agribiodrome pendant quelques mois, un peu avant l'ouverture. Voilà.
On a des subventions.
On a des subventions de la région, effectivement, sur tout le matériel qu'on a pu investir, comme la chambre froide, les banques froides, ce genre de matériel. Voilà. Donc, effectivement, la région et le département vont nous subventionner. C'est en cours.
La CCD qui pourrait nous aider aussi. On lance un appel. Mais oui, sur de l'investissement. Parce qu'on a investi ici. Après, pourquoi on te dit qu'on veut pas, on n'imagine pas l'agrandissement, c'est que déjà on avait un prévisionnel qu'on a déjà atteint au mois de décembre. Ça faisait pas un an qu'on a. Nous, on est très contents. Et puis on va y aller comme dans nos exploitations, on n'est pas là pour faire toujours plus de chiffres ou je sais pas quoi, on est là pour faire d'abord des produits de qualité et puis qu'on arrive à en vivre, ça c'est ça la base en tout cas pour tous. On n'a aucune envie de devenir des.
Et il y a aussi quelque chose, du coup, comme on n'a pas encore une année complète, du coup, au niveau visibilité, c'est un peu difficile de savoir. Et l'année dernière, on n'a pas eu du tout de vente au printemps, début d'été. On est vraiment arrivé dans le gros de la saison. Donc, je pense que malgré tout, on a fait un super démarrage. Mais en fait, je pense qu'on va certainement continuer dans la lancée. Et là, la belle saison, elle va arriver. Donc forcément, on va avoir à nouveau plus de clients. On commence à être un peu plus connus. Et je pense que...
Oui, puis on était un peu... On serrait les fesses en janvier, février, mars, en se disant, bon, ben oui, ça va être des mois creux, etc., qui n'ont pas été si creux que ça. On est dans une bonne moyenne par mois. Enfin, nous, en tout cas,
On est ravis pour l'instant de ce que ça donne et il y a des chances pour que effectivement la vente augmente quand même dans les mois qui vont venir. Enfin,
Vous tous donc avez conçu le silo, c'est aussi un outil que vous êtes en train de travailler, d'élaborer, d'affiner aussi.
Oui, parce qu'on a élaboré un règlement intérieur, on s'est fixé un certain fonctionnement. Et puis là maintenant on est les mains dans le cambouis, dans la terre comme d'hab, mais on s'aperçoit bien que il faut qu'on avance parce que notre collectif il est tout naissant et enfin même si ça fait 2 ans qu'il réfléchit etc, on a besoin d'outils pour prendre des décisions, pour décider de où on va, comment on veut y aller, etc. Et du coup, on est tout le temps... le magasin, il bouge aussi parce qu'on rajoute des étagères, on change un truc, faut qu'on fasse des jolies vitrines.
Il faut que ce soit fonctionnel, donc il y a du matériel à adapter, il y a des choses à déménager ou à améliorer. Et effectivement, en dehors de ça, il y a aussi tout le côté collectif où il y a... Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Enfin, on a aussi des projets en cours ou des idées qui viennent et qui sont ou réalisables ou pas, mais en tout cas qui sont sur la table pour les années qui viennent, je pense.
Le modèle économique fonctionne comment ici ?
Alors, le modèle économique...
Capitaliste.
Ouais, on est des capitalistes, on a monté une SARL.
Ce qui est vrai, n'empêche.
Oui, mais donc on est une SARL, sauf qu'on est tous des associés, on a tous le même... La même part dans le capital social, on est tous au même niveau, il n'y en a pas qui ont plus de pouvoir que les autres. Ensuite, en fait, ce magasin, il fonctionne. Les gens déposent, même nous, on est des, entre guillemets, des dépôts-vendeurs, parce qu'on met de la marchandise, et tous les mois, on est payé par le silo de ce que le silo a vendu. Voilà. Donc, le silo, il récupère une commission sur les ventes pour pouvoir faire fonctionner le magasin. On a de l'électricité, du téléphone, un loyer, des emballages à acheter, etc.
Et une employée.
Et une employée depuis le début du mois d'avril.
Après, l'idée, c'est pas de faire des sous avec ce magasin. C'est qu'en fait, simplement, ça se répercute sur les fermes de chacun et qu'en fait, on puisse... Qu'on puisse faire vivre les exploitations. Voilà. Ouais. Le magasin, il génère de l'argent, mais avant tout, c'est de l'argent qui vient de nos fermes. Voilà. Donc, on n'est pas là pour faire des bénéfices. Et l'idée, c'est que quand on fait des sous un peu, et ben, c'est soit de les réemployer pour investir du matériel qui soit plus fonctionnel, ou soit surtout pour embaucher, comme là, on vient de le faire. Voilà, on a pris une salariée à temps partiel pour l'instant et on envisage d'en prendre une seconde pour le début de l'été parce que ben, ça sera une saison un peu difficile pour chacun dans les exploitations, que ça nous permet de gagner un peu de temps sur les permanences, que ça offre aussi de l'emploi à deux personnes et que ben, voilà, en fait, on n'est pas là pour faire... pour se constituer un trésor, quoi. On veut simplement que ça revienne à chacun et que ça reflète notre travail de tous les jours.
L'économie circulaire,
ouais.
C'est aussi une importance pour vous ?
En fait, moi je dirais juste que pour l'instant, on est encore trop jeune dans le projet pour envisager ça, mais que ça peut faire partie des idées du futur.
Sous quelle forme sont proposés donc vos produits ici au silo ? Est-ce que par exemple ils sont emballés ? Est-ce que le client doit avoir quelques réceptacles par exemple ou des sachets pour réceptionner quelques marchandises ?
Bah, effectivement, l'idéal c'est que les gens viennent avec leur panier, leur sac, leur boîte et que nous on puisse peser pour qu'ils puissent acheter leurs olives, leur fromage. Leur pâté ou leur saucisse, peu importe quoi, mais qu'on puisse les mettre dans des récipients qui soient aux gens et du coup ça évite les emballages. Effectivement, on incite tout le monde à le faire. Après, la question se posera sûrement au niveau du collectif et du magasin. Je pense pas tout de suite parce qu'on est trop jeune, mais qu'effectivement ça peut faire partie des objectifs des futures années d'essayer de réduire au maximum les emballages.
En tout cas, tout ce qui est présenté en verre est récupéré, que ce soit les bocaux, les légumes, etc., les yaourts.
Pas tes produits. Ouais.
Ben non, moi pas par exemple, parce que je peux pas laver les pots de pâté. J'ai rien pour les laver, donc voilà. Et sur les conserves, je suis pas sûre que Sandra elle récupère les bocaux en verre, tout ça, je sais pas. Après, il y a aussi que dans la façon dont les fermes fonctionnent, il y en a beaucoup qui ont pas de quoi ou recycler ou laver parce que le modèle de transformation il n'était pas comme ça jusque là. Donc tout ça, c'est des choses à réfléchir aussi.
Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a, je pense que c'est sur Roman là où. Il y a des équipes là qui passent récupérer les bocaux, qui les lavent.
Ramène ta bouteille, ça s'appelle.
Ramène ta bouteille, ouais, voilà. Donc voilà, il y a peut-être un moment où on va se pencher pour de vrai sur la question.
Je voudrais parler du froid. Hein, ça va être un gros problème pour cette année.
Le froid dehors ou
le gel qu'il y a eu là, non, cette période.
Est-ce que le froid dans les frigos, ça va pas trop nous impacter, je pense.
Oh, pour les cochons, je pense que c'est tranquille, non?
Si, ça peut impacter, effectivement.
Ah ouais, ça peut impacter?
Non, pas... si, ça peut impacter.
Tu veux parler du froid dehors?
Des mises bas, quand il fait très froid au printemps, ça peut donner plus de porcelets écrasés, par exemple.
Ah oui.
Ouais.
Mais les maraîchers, ils ont des serres, ça va aller, ils vont s'en sortir. Bon, le froid.
Le froid. Donc, on sait que beaucoup de vignes et d'herbes fruitiers comme les abricots ont souffert de ce gel. Est-ce que, pour vous, vous êtes au courant aussi d'autres plantations qui vont souffrir de ce gel?
Ben, nos producteurs de fruits au magasin, oui, effectivement. Guillaume qui fait des abricots, je pense qu'on n'aura pas d'abricots pour cette année. A priori, les cerises, on ne sait pas encore trop, mais c'est pas dit non plus. Pour les pommes, c'est pareil. A priori, ça a été aussi bien impacté. Donc voilà. Après, sur le reste, on va voir. Mais c'est sûr que, par exemple, sur la production de la clairette, du jus de raisin, du jus de pomme aussi, ou même des jus de fruits en règle générale, ça risque d'être compliqué. Peut-être aussi un peu sur les confitures. On verra. Et après, ben, pour les maraîchers, peut-être un peu moins. Je pense que tout ce qui était déjà en production, il y a dû avoir un peu un impact. Ça risque de ralentir un peu les choses pour le départ. Mais bon. D'ici un ou deux mois, les maraîchers, je pense qu'ils auront rattrapé le retard. Mais effectivement, sur la production des fruits, ça risque d'être compliqué cette année.
Moi, je voudrais dire que c'est génial d'être dans un collectif.
Ouais, moi, c'est vrai que quand même, c'est une sacrée force. Je sais pas comment on pourrait le tourner, mais c'est vrai que c'est quand même un super groupe. Quoi.
Eh ben, moi, je me dis que dans l'époque actuelle où on nous dit que ben voilà, on est tous individualistes, etc. Nous, on est seuls sur nos fermes ou des fois on est deux parce que on est en couple ou bref. En tout cas, on n'est pas bien nombreux. Et le fait d'avoir ce collectif en bout de chaîne, c'est-à-dire que moi, par exemple, ça ne m'empêche pas de faire comme j'ai envie sur ma ferme. Par contre, j'ai un espace où je vais rencontrer mes collègues et avec qui on a des affinités parce qu'on fait le même métier, même si on ne fait pas les mêmes productions. Et qu'on est dans une dynamique, on a un objectif commun. Et ça nous donne une force parce que on est 13, on a tous des compétences différentes et en fait on met nos compétences au service du collectif. Donc c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, c'est parce que ça nous fait plaisir ou que c'est facile pour nous de le faire. Et donc ben voilà, il y en a qui sont plus doués pour bricoler, d'autres pour faire les comptes, d'autres pour faire de l'animation, d'autres. Et ben chacun amène sa compétence sans que ce soit compliqué. Et du coup, le résultat est formidable. Voilà.
Il y a vraiment une place pour chacun d'entre nous. Ouais. Et effectivement, on n'a pas les mêmes façons de fonctionner ou les mêmes façons de voir les choses, mais on arrive toujours à se retrouver à la fin.
Voilà. Donc le silo, c'est aussi la biodiversité de ces paysans.
Et on peut rajouter aussi, mais après c'était pas prévu, mais que tu parlais de l'époque un peu particulière en ce moment, que bon, ben, je sais pas comment on s'est débrouillé, mais on a quand même eu peut-être le nez fin, je sais pas, pour ouvrir l'année dernière à cette époque de l'année un espace de vente en direct qui nous a aussi permis de continuer à faire tourner nos fermes alors qu'il n'y avait pas de sécurité sur les places de marché ou ce genre de choses et que... Ben pour le coup, je pense que ça a quand même facilité la vie de pas mal d'entre nous sur la vente. Nous, ça nous a permis d'écouler toutes nos productions sans se poser le problème des places de marché, tout ça. Quoi. Enfin, voilà, c'était... Et rebelote à l'automne et rebelote là maintenant. Enfin, du coup, c'est quand même grand luxe aussi pour nous là-dessus. Hein.
La représentation des associés ou des déposants concerne quel secteur sur le DIWA ou au-delà?
Bah alors, on a tout le Haut-Diwa avec Pauline à Beaumont, en Diwa qui fait de la chèvre. On a Zoé qui s'installe à Charins, en chèvre aussi. On a Margot et Christophe qui sont à Glandage. On a aussi Carole à Glandage, qui est sur les transformations de légumes et des plantes aromatiques. On a Guillaume qui vient de Cornillac, donc c'est dans les Baronnies, avec des fruits. Si, mais pas que, il y a aussi des jus, il y a aussi un peu de la patate et des oignons.
Et des céréales.
Et des céréales, et des confitures, et des jus. On a aussi...
Après, il y a tout le secteur de... il y a Châtillon, il y a...
Voilà, Châtillon, Luzeran, Châtillon...
Il y a Eugène et Jérôme. On a Fred qui fait le pain à Bennevise aussi. Luzeran, on a Fanny qui fait les agneaux et on a la ferme Bouteille qui fait tout ce qui est pâte, moutarde, farine, etc.
Pierre à Minglon qui fait du maraîchage. On a Christelle, et puis après on passe à Die où Christelle est en sorbet en plantes aromatiques, moi-même. Et puis à Poney, Émilie avec son cochon.
On a Sandra au Perrier.
Sandra au Perrier. Et puis on oublie qui ? On n'oublie personne.
J'ai l'impression qu'on a fait le tour.
Ouais, ouais, il se reconnaîtra.
Ouais, c'est ça.
À 13, hein, c'est difficile de compter. Hein.
Ouais. Est-ce que vous arrivez à contenter les clients qui viennent chez vous ?
Bah ça, tu iras leur poser la question. Puisque on t'a fait venir ici, tu iras interroger les consommateurs.
Et puis je dirais pas toujours, mais ça fait partie du charme d'un magasin de producteurs. Voilà, un magasin de producteurs, c'est un magasin qui fonctionne avec les productions du moment. Donc les producteurs s'adaptent, les clients s'adaptent et tout le monde est content. On n'a pas toujours de la salade ou on n'a pas toujours...
On n'a jamais des citrons, ni des bananes.
Ni du chocolat, hélas.
Ni du chocolat.
mais en tout cas, on a quand même toujours des choses assez variées. Et on peut venir en espérant trouver de la salade et repartir avec de la moutarde, par exemple.
Le nom, le silo, c'est venu comment ?
Alors, c'est quoi un silo ? Un silo, c'était l'endroit où on apportait toutes les récoltes.
Le grain.
Voilà, ben juste le grain. Bon, ben, on s'adapte. 2021, on y met plein de choses dans le silo.
Pourquoi une mise en commun de toutes les productions.
Pourquoi pas le beffroi ?
Ben, parce que c'est pas joli, le beffroi. Le silo, alors qu'au silo, on peut faire plein de petits trucs sympas, genre aussitôt au silo. Hein ? Voilà.
Celle-là, il faut la garder, je l'adore.
Ouais.
Eh bien, Frizou et Émilie, je vous remercie toutes deux donc, de nous avoir parlé du collectif de vente locale et paysan et qui s'intitule le Silo. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Mais merci Yves d'avoir fait le déplacement à pied du centre-ville pour venir nous rencontrer.
Et à bientôt au Silo.
Bien que l'aller soit plus facile.
Ouais.